chronique. Une émission de la rédaction de Storia Voce. En partenariat avec Codex. On retrouve Christophe Dickès.
Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de notre émission consacrée à notre partenaire, la revue Codex, Codex 2000 ans d'aventure chrétienne, et un numéro spécial consacré aux barbares, les barbares des grandes invasions, au baptême de Clovis, les historiens, à l'assaut des idées reçues. Priscille Delassus, bonjour.
Bonjour Christophe.
Merci d'avoir répondu à notre invitation et vous revenez à ce micro pour évoquer donc cette revue Codex que vous dirigez, et vous avez souhaité consacrer ce numéro aux barbares, et un numéro que vous avez confié à un personnage très important du monde historiographique français, puisqu'il s'agit du professeur d'histoire médiévale à la Sorbonne, Bruno Dumézil.
Oui, effectivement, c'est cet historien qui nous a accompagnés sur ce dossier, qui nous a aidé à faire le plan et puis à recruter également ses collègues, quelque part, d'autres historiens pour aborder une part de notre histoire qui est finalement assez peu connue. Nous avons bien en tête la période de l'Empire romain, ensuite celle du Moyen-Âge à partir de Charlemagne, et ces temps barbares représentent comme un trou dans notre passé, dans notre imaginaire, et donc nous nous sommes dit qu'il était intéressant de s'y plonger, et pour cela il fallait des experts, parce que ce n'est pas si simple, des gens qui ont fréquenté les sources et qui sont capables de démêler un peu le vrai du faux dans des temps finalement assez troublés.
Alors Dumézil est un grand spécialiste du monde barbare. Il a aussi récemment écrit une monographie consacrée à Clovis dans la fameuse collection les 30 journées qui ont fait la France de chez Gallimard, et j'inviterai, je pense, Bruno Dumézil, je crois au cours du mois de décembre, afin de présenter cet ouvrage. Comment définir un barbare? D'où vient l'origine du terme barbare, Priscille?
Alors à l'origine, c'est un terme grec qui finalement se calque sur une onomatopée. Donc barbare, c'est les sonorités que les Grecs entendaient quand des étrangers parlaient entre eux. Et la distinction, elle se fait finalement sur un critère culturel, le critère de la langue. Les barbares, ce sont ceux qui ne parlent pas grec. Et cette notion est extrêmement importante parce qu'au-delà de la question linguistique, de ces borborigmes qui paraissent un peu lourds, un peu pesants dans ces langues jugées rustiques, il y a finalement cet accès à la raison, à la philosophie, parce que pour les Grecs, la langue, le logos, est vraiment un moyen d'appartenir au monde civilisé, de raisonner, de dialoguer, et ces barbares, finalement, sont en dehors du monde civilisé.
En dehors du monde civilisé, et pourtant, l'Empire romain, son grand défi et son grand succès, c'est d'avoir su assimiler en quelque sorte les populations barbares avec pragmatisme.
Alors, ce qui est intéressant pour parler de l'Empire romain, parce que nous étions d'abord sur une notion grecque, et pour les Grecs, les Romains, à l'origine, étaient des barbares, puisqu'ils ne parlaient pas grec, ils ne partageaient pas cette culture. Et les Romains ont récupéré l'héritage grec dans une sorte de fusion des deux cultures romano-grecques, et on fait leur cette notion de barbarie pour désigner tous les peuples qu'ils n'avaient pas encore vaincus. La destinée des peuples du monde entier dans leur état d'esprit était d'être conquis par Rome et surtout d'être soumis aux lois de Rome. Et c'est ainsi qu'ils considéraient le monde extérieur.
Alors ils ont réussi à assimiler ces populations, et pourtant il y a eu une population qui va poser un problème, qui est une population nomade, ce sont les Huns.
Oui, les liens entre Rome et les populations des frontières, les populations extérieures, ont toujours été assez complexes, et à un moment donné, Rome s'est rendu compte que sa prétention à couvrir l'intégralité du monde habité n'était pas possible. Il y avait trop de limites. Rome a composé avec ses voisins par divers moyens qui n'étaient pas nécessairement guerriers. Il pouvait y avoir des moyens beaucoup plus pragmatiques, voire économiques. Et ce jeu, en fait, de rapport mutuel entre l'intérieur et l'extérieur, d'équilibre parfois assez précaire, hein, dans un jeu géopolitique très subtil, va être rompu avec l'arrivée des Huns, qui se passe en deux vagues successives. Une première vers 375 au niveau du Danube. Il faut bien imaginer que l'Empire romain est immense, donc il y a beaucoup de frontières à défendre, donc plutôt très à l'est. Et puis, quelques décennies plus tard, en 451, les Huns vont attaquer la région du Rhin, et Rome n'est plus en mesure de faire face, d'avoir une relation équilibrée avec ses populations. Et à ce moment-là, elle perd énormément de terrain dans un climat d'anarchie.
Les grandes invasions, cela relève du mythe ou bien de la réalité ?
Alors c'est un grand débat entre les historiens aujourd'hui. En tout cas, il faut se dire que les images que nous avons en tête, hein, des cartes de nos cours de l'école primaire avec de grandes flèches dans toute l'Europe ne correspondent pas nécessairement à une réalité si importante en termes de nombre, par exemple. On estime que les barbares sont arrivés peut-être plus par petits groupes, que certains s'était installé dans l'Empire depuis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Donc ce n'est pas un phénomène soudain. Finalement, l'arrivée des Huns vient prolonger un phénomène qui existait déjà depuis plus longtemps.
On a plus l'impression, à lire ce dossier, que nous sommes dans une sorte de mélange de cultures. En tous les cas, la culture romaine, la civilisation romaine domine. Avec, à un moment, le substrat du christianisme.
Oui, exactement. Alors, le christianisme est un phénomène important qui commence à se diffuser exactement à la même époque. Et ce qu'on a appelé la chute de l'Empire romain, qui finalement s'est faite de façon assez progressive, hein, on a retenu la date symbolique de 476, eh bien, va malgré tout laisser des marques dans la culture, et ce n'est plus l'empire politique qui va être le véhicule de la culture romaine, mais cette religion chrétienne qui va transmettre énormément de valeurs romaines, de culture romaine, ne serait-ce que par le biais de la langue et de la littérature.
Alors il y a des moments quand même de rupture, si je puis dire, hein. D'ailleurs, à un moment, Bruno Dumézil fait un focus sur 410, Alaric qui met Rome à sac, elle est prise, la ville qui avait pris l'univers entier, nous dit Saint Jérôme. Faut-il voir ces ruptures ou parler davantage d'une continuité ?
Alors c'est toujours le débat entre historiens, on peut mettre l'accent soit sur l'un, soit sur l'autre. Dans le cas de cette prise de Rome en 410 par Alaric, peut-être que cet événement était plus une rupture, en tout cas pour les gens de l'époque, que la déposition de Romulus Augustule en 476. Ça a été vraiment un événement retentissant, cela faisait des siècles que Rome n'avait pas été livrée aux mains des étrangers.
Alors, avançons dans le temps. Il y a ce moment charnière que constitue le baptême de Clovis. Nous en parlerons plus tard. Le baptême nous en parlerons plus tard avec Bruno Dumézil quand je l'inviterai à ce micro. Le baptême de Clovis, dites-vous, change la donne.
Oui, elle change la donne au niveau du christianisme, parce que c'est une époque où le christianisme apparaît assez divisé. C'est l'époque des grands conciles christologiques, et la majorité des populations barbares se sont déjà converties au christianisme en réalité, à l'exception des Francs qui restent païens. Mais les autres peuples, par exemple les Vandales ou les Visigoths, se sont convertis à une certaine forme de christianisme que l'on appelle homéen, et qui pourrait être considéré selon les conciles comme hérétique. Clovis, lui, qui reste païen, se convertit au christianisme, on pourrait dire catholique, donc qui reçoit l'héritage des conciles, qui était en fait l'héritage des empereurs romains, ce christianisme catholique. Et à partir de ce moment-là, il y a comme une bascule. L'ensemble des populations d'Europe vont devenir chrétiens catholiques, mais ce n'était pas du tout gagné à l'origine. Ce phénomène va bien sûr être se dérouler en plusieurs décennies.
Alors nous sommes dans une période où quand même c'est, je vais pas dire ces héros, mais en tous les cas, ces acteurs de l'époque portent des noms assez incroyables. Atanagild, Kramnesynd, Erchinoald ou Erchinoald, Godgisel, Théodoric. Tout ça, ce sont des noms qui nous paraissent extrêmement complexes, bien évidemment, mais qui ont une origine bien précise.
Oui, ce sont des noms qui rassemblent à la fois le patrimoine paternel et maternel. On prend la moitié du prénom de chacun de ses deux parents pour composer selon des variantes qui peuvent s'étendre différemment selon les frères et sœurs, pour composer des noms nouveaux. Donc un nom dit l'origine d'une personne des deux côtés, paternel et maternel.
Alors dans ces personnages, il y a beaucoup de personnages féminins, et vous présentez notamment Amalassonte, qui est une reine barbare, c'est la fille du roi des Goths, Théodoric le Grand, c'est la nièce du roi des Francs, Clovis. En quoi se distingue-t-elle?
Alors c'est une femme assez incroyable. Déjà Théodoric le Grand, peut-être qu'aujourd'hui ça nous dit pas grand-chose, mais c'était un souverain extrêmement important à cette époque-là, peut-être le plus important en Europe, car les Ostrogoths avaient bien assis leur pouvoir. Et Amalassonte, eh bien, va se retrouver reine par une succession de décès. Et c'est finalement assez rare, reine en tant que telle. Elle n'est pas que épouse de roi, elle n'est pas que régente. Elle occupe la fonction de reine, et c'est pour ça qu'elle a laissé un souvenir important dans l'histoire.
Est-ce qu'on peut parler de société matriarcale par certains côtés? Parce que vous le montrez d'ailleurs, il y a l'importance de la filiation autant du côté du père que du côté de la mère, et on veut l'inscrire dans les prénoms. Est-ce à dire que la femme était aussi importante que l'homme, voire parfois plus importante que l'homme?
Alors on a beaucoup soutenu cette idée à propos des sociétés barbares, en pensant finalement que ce côté matriarcal était une tradition germanique. Aujourd'hui, les historiens sont plus réservés sur le sujet et ils mettent en avant peut-être la véritable origine de cette idée qui se trouve dans les sources à notre disposition, notamment dans les sources de l'histoire des Francs écrites par Grégoire de Tours, où lui donne un rôle très particulier aux femmes, mais cela rentre dans une conception très personnelle qu'il a du pouvoir et puis du rôle que chacun a en politique. Et donc certaines reines notamment ont soit un effet très bénéfique, par exemple Clotilde auprès de Clovis, soit peuvent être extrêmement malfaisantes.
Vous remettez en cause aussi l'idée d'une société violente, parce que effectivement on a tous l'image en tête de Clovis qui tue le soldat qui lui a manqué de respect lors d'un partage à Soissons. Or, vous relativisez, c'est l'historien Adrien Bayard qui relativise la violence de ces sociétés.
Alors, l'idée que nous avons d'une société violente correspond finalement aux découvertes archéologiques que nous avons faites de ces époques-là. Qu'avons-nous sous les yeux? Ce sont essentiellement des tombeaux garnis d'armes, et les objets qui nous sont parvenus biaisent peut-être un peu notre regard. Malgré tout, il faut quand même affirmer que c'était une société assez violente, parce que l'État était faible, donc il fallait pouvoir compenser cette faiblesse du droit, cette faiblesse de la justice, mais on ne faisait pas n'importe quoi pour autant. Cette violence est canalisée, est encadrée pour ne pas rentrer dans des cycles de vengeance à n'en plus finir. Il y a comme un équilibre des forces qui se met en place autour des plus forts.
Alors, un des articles les plus intéressants, je pense, c'est celui de Magali Coumer, qui est intitulé « Nos ancêtres en quête de leurs origines », qui montre au fond que ces peuples veulent se construire avec le temps. Nous sommes au VIe siècle, une identité, un passé, une histoire.
Oui, c'est une idée qui a beaucoup été développée ces dernières années et qui est effectivement assez passionnante. Les barbares avaient eux aussi des questions d'identité, et ils ont cherché, mais sur le modèle des Grecs, sur le modèle des Romains, à se trouver des ancêtres, à se trouver une origine et une forme de mythologie, à expliquer comment est-ce qu'ils sont venus dans ces terres occidentales et comment leurs ancêtres ont pu être des héros. Et cette histoire, elle est finalement magnifiée. Elle revisite évidemment le passé pour servir en général les dynasties en place au moment de la rédaction de ces histoires. Et elles ont éminemment aussi nourri notre imaginaire parce que c'est souvent la version que nous avons de ces événements. Donc il faut prendre une certaine distance critique vis-à-vis de l'histoire telle que les barbares l'ont racontée.
Je renvoie à nos auditeurs à ce dossier qui est richement illustré, notamment là je tombe sur les pages consacrées aux vestiges du royaume wisigoth de Tolède et donc aux chantiers archéologiques. Passons à une autre époque, Priscille, la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, c'est le thème de votre cahier pédagogique. Je rappelle que le cahier pédagogique a pour destination les professeurs d'histoire et de géographie du collège ou bien du lycée.
Oui, nous avons voulu revenir sur cet événement parce qu'il est souvent très difficile à enseigner pour les professeurs. C'est une histoire avec laquelle la France n'est pas totalement pacifiée. Et puis, il faut dire aussi que dans de nombreuses classes, il y a des élèves qui sont issus de familles d'origine algérienne. Donc, les professeurs ne sont pas toujours très à l'aise pour aborder ce sujet-là. Nous avons voulu proposer les faits, puis avec quelques petits focus sur des points particuliers, notamment la façon dont le FLN a joué de la pression internationale pour remporter la victoire à la fin.
Alors, autre partie de la revue Codex, vous intéressez, ça a un côté assez touchant, hein, à ce petit pays qui est coincé entre le Kazakhstan, la Chine, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan, j'ai nommé le Kirghizistan, et vous intéressez à une minorité chrétienne.
Oui, c'est une minorité qui a une histoire assez intéressante, parce qu'elle... Elle provient en fait de l'histoire soviétique, tout simplement. Staline a déporté des Allemands de la Volga dans ces terres de marge de l'URSS et ils ont fait souche en conservant leur religion chrétienne. L'église de Bishkek, qui est la capitale du Kirghizistan, est l'une des premières à avoir été autorisée sur le territoire soviétique. Aujourd'hui, les descendants de ces Allemands sont pour la plupart repartis en Europe, mais la communauté chrétienne demeure avec des populations qui viennent d'autres pays. Elle reste très petite, mais c'est intéressant de rencontrer ces personnes et d'écouter quel est finalement le dialogue qu'ils ont aussi avec le monde kirghize que nous connaissons très peu ici en France.
Je termine par le patrimoine, hein, décollage immédiat pour la Guyane, hein. Là encore, une partie de la revue qui est très complète, à la fois sur le fameux bagne que l'on peut voir, hein, dans le film Papillon, mais aussi au cœur de l'Amazonie, et vous intéressez à l'art, tout simplement, des brodeuses de Guyane. Merci beaucoup, Priscille.
Merci Christophe.
Je me permets de renvoyer aussi nos auditeurs, puisque nous avons parlé beaucoup de la chute de l'Empire romain, aux deux émissions que nous avons enregistrées. Alors, deux avis complètement opposés, celui de Bertrand Lançon, pour qui il n'y a pas de rupture, et l'émission avec Michel de Gégère, qui lui estime qu'il y a une rupture. Codex, 2000 ans d'aventure chrétienne, vous courez chez votre marchand de journaux et vous achetez cette revue qui est absolument richement illustré, mais aussi porté par des textes des plus grands universitaires. Les barbares des grandes invasions au baptême de Clovis, tel est le thème de cette revue. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Storia Voce.